Machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, c'est publié aux éditions La Découverte.
Christian Salmon est écrivain et membre du Centre de Recherche sur les Arts et le Langage du CNRS. Bonjour Christian Salmon. Bonjour. Je veux dire qu'après avoir lu votre livre, on n'a plus jamais regardé la télévision comme avant.
Bonjour, je m'appelle Jack Bauer. Ces événements se déroulent sur 24-fr.com. This is not 24.
Voilà, donc c'est la bande-annonce de la série 24 heures, comment Jack Bauer, de la cellule antiterroriste, sauve Los Angeles d'une attaque terrifiante nucléaire. Antonin Scaglia, juge à la Cour suprême des États-Unis, lors d'un colloque sur la justice, a pris l'exemple de Jack Bauer et de la série 24 heures pour justifier l'usage de la torture dans la lutte contre le terrorisme. C'est un exemple tiré de votre livre, Christian Salmon, Storytelling, comment une technique de marketing américaine, le storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, a transformé, entre autres, la politique, la communication et l'information. À l'origine, donc, je disais, c'est une technique de communication, de marketing américaine, aujourd'hui en train d'atteindre la France.
De marketing et de management, hein, puisque le storytelling est né en fait au milieu des années 90 à la Banque mondiale. C'est un responsable du knowledge management qui, découvrant que les employés, les réformes de la Banque mondiale ne passaient pas auprès des salariés, cherche une nouvelle méthode de communication interne et découvre par hasard que le fait de raconter une histoire, peu importe laquelle, c'est l'histoire d'une infirmière qui découvre grâce à Internet le remède de la malaria des milliers de kilomètres d'un centre de recherche américain. Bref, que cette histoire non seulement permet de changer l'image de la Banque mondiale, qui n'est pas seulement une banque de crédit, mais qui est également un lieu de transfert de technologies, de connaissances, d'informations, mais permet également de donner une sorte d'unité, de culture d'entreprise à la Banque mondiale et de faciliter les relations de bureau à bureau, de division à division. Et cet homme qui s'appelle Steve Dennings, tout heureux de sa découverte, commence à la populariser et devient au milieu des années 90 le gourou du storytelling management. Il a écrit plusieurs livres dont l'un s'intitule « Comment le storytelling, l'art de raconter des histoires va changer le 21e siècle ». Il a écrit également une fable qui s'appelle Squirrel Inc., c'est-à-dire l'entreprise écureuil, qui a été reprise par une publicitaire française du groupe Ogilvy dans sa campagne de pub pour les caisses d'épargne, qui s'appelle Nathalie Rastoin, qui accessoirement était la conseillère de Ségolène Royal pendant la dernière campagne.
On arrive à la question.
Oui, puisque très vite les hommes politiques vont prendre à leur compte le storytelling, l'art de fabriquer des histoires. Et par exemple, Karl Rove, qui est le conseiller en politique de George Bush, l'ancien conseiller, en a fait l'aveu. La réalité n'a aucune importance. Nous avons la puissance pour inventer l'histoire. Nous sommes un empire et nous créons notre propre réalité. Et là, ça change tout.
Absolument. D'ailleurs, un livre récent qui a été publié en France sur la campagne de Nicolas Sarkozy, pour ne pas le nommer, c'est celui de Yasmina Reza, révèle que l'un des conseillers de Nicolas Sarkozy lui a dit « La réalité n'existe pas, ce qui compte, c'est la perception. » Donc, qui dirige la perception, qui oriente, qui fabrique la perception, c'est évidemment la perception du pouvoir. Donc dans le cas de Karl Rove que vous citez, qui critique l'un des journalistes accrédités à la Maison Blanche en lui disant « Vous appartenez à la communauté réalité, mais les choses ne fonctionnent plus du tout comme ça aujourd'hui. »
Il reproche à un journaliste de s'intéresser aux faits.
Absolument.
C'est-à-dire à la réalité.
Absolument.
Il arrête de regarder ça n'intéresse plus personne. Aujourd'hui, c'est les fictions qui sont importantes.
Oui, il dit même pire. Il dit « Aujourd'hui, nous sommes un empire et c'est nous qui créons notre propre réalité. » Et vous pouvez commenter cette réalité, mais pendant que vous la commentez, nous en créons une autre. Il faut savoir que cette réalité qui est créée par la Maison Blanche, à l'époque où a lieu ce dialogue entre le journaliste et Karl Rove, c'est tout simplement l'invasion de l'Irak. Donc on ne parle pas de choses accessoires ou de simples campagnes politiques. Il s'agit réellement d'envahir un pays, d'inventer la fable des armes de destruction massive et de créer une réalité, c'est-à-dire la responsabilité de Saddam Hussein dans l'attentat contre
le... Et pour ça, on va utiliser des metteurs en scène, par exemple Frank Sforza, qui est un ancien producteur de ABC, qui va mettre en scène toutes les actions de George Bush.
Oui, c'est un ancien producteur, même un cadreur de la télévision, puisque son métier, en fait, c'est, comme le dit un ancien conseiller à la communication de Reagan, c'est de se préoccuper de ce qu'il y a autour de la tête, qui, selon lui, est plus important que la tête, lorsqu'on cadre une image. Hein. C'est ainsi que on a Sforza a cadré le discours de George Bush au moment de la déclaration de l'invasion de l'Irak, à la fin de l'invasion. Invasion de l'Irak, mission accomplie, qui est scénarisée, Franck Rich le raconte et je le rappelle dans le livre.
Alors Franck Rich, juste exactement. Rappelez, c'est un ancien critique théâtral du New York Times.
Tout à fait. Oui. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que ce soit un critique de théâtre qui démasque en fait les illusions fabriquées par la politique, et notamment dans cette anecdote de mission accomplie, lorsque George Bush estime que la campagne en Irak a réussi, qui est, vous vous souvenez, filmé sur un porte-avions qui est censé croiser en haute mer.
Au large de San Diego, on voit San Diego, on va masquer San Diego, on masque la réalité.
Absolument. Oui. On n'aperçoit pas la côte de San Diego, mais c'est dans le port de San Diego. Et Bush arrive avec un casque d'aviateur sous le bras dans un remake du film Top Gun et réalisé avec les mêmes scénaristes, les mêmes cadreurs et les mêmes concepteurs que le film.
Oui, parce que ce que vous montrez bien dans votre livre, Christian Salmon, c'est qu'effectivement, ce que disait Colombe, les gens qui travaillent à la télévision, les gens qui travaillent à Hollywood sont aujourd'hui, ou l'ont été en tout cas, employés par George Bush et donc transfèrent exactement leur méthode de travail dans le champ politique.
Absolument, et même il y a eu une décision à la fin des années 90 qui a été de créer le fameux Institute for Creative Technology qui est basé à Los Angeles et qui a été doté d'un budget de 50 millions de dollars quand même, qui réunit pour la première fois des scénaristes d'Hollywood, des techniciens de la simulation et des faits spéciaux, des universitaires spécialistes du récit et des militaires. Et c'est la première fois que l'armée américaine change son concept de simulation, puisque on a toujours eu des simulations techniques, des simulations de vol, et adopte une simulation narrative de la réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement de doubler ou de copier la réalité pour simuler les opérations techniques de vol, de coordination, mais d'intégrer tout ça dans des effets interactifs et de raconter une histoire, en fait, à plusieurs.
Qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Mais est-ce que, justement, pour que ça fonctionne, il ne faut pas quand même qu'il y ait un rapport avec la réalité? Par exemple, sur le discours du 1er 2003, mission accomplie, la fin de la guerre en Irak, est-ce que là, le discours s'est pas effondré parce qu'il n'y avait aucun rapport avec la réalité? On n'est pas à la fin de la guerre en Irak en 2003.
Le storytelling est la cause du problème et il est la solution. Hein. Il y a un universitaire américain qui a parlé de la stratégie de Karl Rove à propos de ce que vous dites, c'est-à-dire de l'échec de l'invasion de l'Irak et de la manière dont Karl Rove a géré cet échec pendant la deuxième campagne de George Bush, a parlé de stratégie de Scheherazade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque la réalité vous condamne à mort, lorsque le roi, dans l'histoire de Scheherazade, condamne son épouse à mort à la fin du récit, eh bien il faut raconter une nouvelle histoire pour pouvoir dépasser...
Pour masquer l'ancienne qui...
Absolument. Mmh. Et c'est exactement Karl Rove, en déplaçant l'enjeu de l'échec des opérations militaires en Irak, en rappelant, en faisant appel à la peur, au 11 septembre, etc.
Alors, par exemple, il y a l'histoire d'Ashley. C'est un clip qui fait après le 11 septembre, qui permet, comme vous le dites, de transformer une histoire en une autre histoire, si vous pouvez nous la raconter.
Ouais, l'histoire de Ashley, d'abord, j'invite tous les auditeurs à aller sur Internet. On la voit, il suffit de t'appeler de Ashley Story, et vous l'avez sur un site Internet. C'est l'histoire, en fait, une histoire réelle, au départ, qui s'est passée au cours d'un meeting de George Bush, où on présente à George Bush une jeune fille dont la mère est morte dans les tours du 11 septembre. Le père, qui est un militant républicain, accessoirement, le père de la jeune fille et un spécialiste de marketing, fait une photo de George Bush serrant dans ses bras cette jeune fille orpheline de sa mère. Et cette photo, il la diffuse sur Internet, elle fait le tour de l'Amérique, ce qui donne l'idée à un groupe de sponsors américains, de républicains, de faire un film. Et donc c'est cette vidéo de 30 secondes qui en gros montre que Bush est proche des victimes, qu'il comprend la douleur des familles et qu'il peut être, et c'est là l'élément essentiel, ce qui fait que cette pub qui aurait pu être un simple spot publicitaire devient une story. Où est la story dans ce que je vous raconte? Dans le fait que cette jeune fille était réputée closet émotionnaliste, c'est-à-dire dans une sorte d'autisme émotionnel depuis la mort de sa mère. Mmh. Et que les témoins racontent que le jour où on la prend, où George Bush la prend dans ses bras, on voit des larmes pour la première fois dans ses yeux. Donc Bush intervient réellement comme un guérisseur. C'est plus seulement un président tout puissant. Et il y a cette phrase du père qui dit ce que j'ai vu ce jour-là dans dans les yeux de ma fille, c'est ce que je veux voir dans le cœur de l'homme qui est à la tête du pays, c'est-à-dire la fameuse compassion des conservateurs.
Oui, l'homme le plus puissant du monde, il a aussi sauvé ma fille. Est-ce que forcément dans une story, il y a un mensonge? Par exemple, vous donnez un exemple assez ancien, c'est la date officielle de l'indépendance de la Tchécoslovaquie. Il a été transformé, c'était un dimanche, c'était transformé en lundi 28 octobre 1918, parce que pour le président de Tchécoslovaquie de l'époque, un dimanche c'est pas une bonne date, ça n'allait pas frapper suffisamment l'opinion et la presse, alors qu'un lundi c'était bien mieux pour la presse de l'époque. C'est fou ça.
Oui, je profite de l'occasion pour dire que cette anecdote est racontée par Bernay, qui est le fondateur et l'inventeur des relations publiques aux États-Unis, et qui, justement, le hasard fait que son livre, qui s'appelle Propaganda, vient d'être réédité. C'est un livre qui était inédit en français, vient d'être réédité aux éditions de La Découverte. Donc, il dialogue avec mon livre à des dizaines d'années de distance. Tout à fait. Il y a une autre anecdote qu'on pourrait raconter, c'est celle d'un conseiller de Bush à qui on demande pourquoi vous avez annoncé la possibilité d'envahir l'Irak au mois d'octobre, novembre, et sa réponse est d'une brutalité incroyable. Il dit, en termes de marketing, on ne lance jamais un nouveau produit au mois d'août.
C'est incroyable, hein. Bah alors, oui. Les conséquences sur la France, on va écouter le grand journal lundi soir, Jean-Pierre Raffarin et Augustin Legrand des Don Quichotte.
C'est quelques dizaines de milliers de personnes. Vous n'allez pas me faire croire qu'en France, qui est la cinquième puissance mondiale, on ne peut pas régler ce problème correctement avec de la volonté politique et une vraie énergie. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas nous faire croire ça à nous, monsieur, qui sommes à l'intérieur depuis 8 mois et qui regardons ensemble comment ça on nous gouverne. Non. Vous arrêtez de gouverner sur l'émotion.
C'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous faites de l'émotion. Moi,
c'est pas d'émotion, monsieur Raffarin. Écoutez, vous êtes ému, vous, pendant 2 heures. Après, vous prenez votre limousine, vous allez vous battre.
Non, est-ce que je peux vous parler? Vous faites pas du spectacle, là. Hein?
Non, mais attendez, vous pas... non plus, vous d'accord. Faites pas du spectacle.
Oui, donc les conséquences sur la France. Henri Guénot, le conseiller de Nicolas Sarkozy, est un adepte de la machine à fabriquer des histoires. Une interview dans Le Monde où il dit « La politique, c'est écrire une histoire partagée par ceux qui la font et ceux à qui elle est destinée. »
Christian Salmon.
Oui, Henri Guénot est le storyteller français, je lui fais ce crédit. Je ne sais pas s'il est, comme Monsieur Jourdain, un storyteller, et s'il fait du storytelling sans le savoir.
Oh, il doit connaître, non?
Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a un certain nombre de formules qu'il a adoptées qui sont assez claires. Et c'est la plume du candidat en français. Aux États-Unis, on dirait c'est le story spinner, c'est-à-dire celui qui tourne les histoires pour le président. Et donc j'ai collecté un peu les discours qu'il a écrits pour Nicolas Sarkozy à travers la France. C'est une formidable fresque composée des vignettes, vous savez, qu'on nous présentait quand on était à l'école primaire, avec toute une série d'images, les peuples, le breton qui est le marin breton, courageux face à la mer, toutes sortes de clichés comme ça. Il y a d'ailleurs même les volcans du Massif central qui se souviennent des résistants gaulois. Alors on savait dans le vieux cliché pétainiste que la terre parlait, mais on ne savait pas que les montagnes se souvenaient des grands...
On est quand même très loin du niveau de professionnalisme qu'atteint le storytelling aux États-Unis, à vous lire, où c'est une vision du monde. Là, on est encore chez des explorateurs ou des amateurs du genre. Même vous, vous dites, Christian Salmon, en fait-il comme M. Jourdain, c'est-à-dire sans même le savoir?
Ben oui, c'est le storytelling du pauvre, mais je crois que l'invasion en France du storytelling manifeste deux choses. Une première chose, c'est que le débat démocratique n'a pas d'autonomie. C'est une question réflexion qu'on peut élargir à toute l'Europe et qu'aujourd'hui les techniques américaines de communication s'imposent. Elles s'imposent de manière dégradée, de manière un peu brute, non dégrossie. Et c'est le deuxième symptôme, je trouve, c'est la provincialisation du débat politique. Parce que le dialogue que vous venez de passer entre Raffarin et Legrand est applicable à toutes sortes de situations. Aujourd'hui, tous les problèmes politiques posés sont posés, comme dit la nouvelle formule de Libération, à travers l'histoire du jour, et non pas à travers des problèmes qui peuvent être débattus.
C'est-à-dire dans le domaine de l'information, les faits, la réalité n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on va vous raconter.
Absolument. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le mensonge politique a toujours existé. Il y a même un livre qui a été réédité récemment de Swift qui parle de l'art du mensonge politique. Il suffit de penser à Machiavel. Dans le cas du storytelling, on a affaire à autre chose. Il ne s'agit pas, et on disait d'ailleurs à propos de la guerre, vous connaissez cette phrase célèbre, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Dans le cas du storytelling, la première victime du storytelling, ce n'est pas seulement la vérité, c'est la réalité. Et c'est ça qui est important, c'est qu'à travers ce modèle de communication, on ne nous ment pas seulement, mais on nous coupe de la réalité et on nous impose une réalité fictionnalisée.
Merci Christian Stallemont. Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, est publié aux éditions La Découverte. Amis auditeurs, il faut le dire et le redire, c'est un livre absolument formidable qui nous ouvre les yeux sur des pans de réalité dont on pouvait avoir peut-être une perception intuitive, mais là les choses sont écrites noir sur blanc. Très 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 bon livre. Merci donc d'avoir été là et à demain Colombe.
À demain Nicolas.